fait 25 ans, moi, j'ai pas vu de campagne. Une jolie petite cabane, avec une forêt autour et des sentiers à plus savoir quoi en foutre. J'en manque de chlorophylle. Je suis obligé d'aller au Castorama, rayon jardinage, pour voir un petit peu de verdure.
CO2, mon amour.
Moi, je me levais tôt, avec la lumière, aller pisser, dehors, contre un arbre. Pisser contre un arbre.
Denis Chessou.
Et l'embrasser.
Très important d'embrasser les arbres. Bonjour à tous, CO2 mon amour, la nature qui chuchote à vos oreilles. Avec aujourd'hui à la technique Stéphane Foulon et Olivier Leroux, nous avons préparé l'émission avec Camille Blanès et c'est Fred Milano qui la réalise. Avec une petite humeur, vous vous en doutez bien, fort baby, fort creuse la terre, le gaz de schiste, les minerais, le pétrole. Ouvre le pipe, fait sauter le compteur à gaz du climat, Trump la mort et la tournée des grands oléoducs. Alors Joe Biden souhaite resserrer la main de l'accord de Paris et évitera de nous refiler du poulet au chlore, c'est déjà ça, tout en continuant à faire tourner la machine à cash. La Terre, elle, s'en fichait un peu de tous ces bulletins de vote émiettés à ses pieds et de cette démocratie tordue où la vérité est égale à une opinion. Elle a déclaré qu'elle restait ronde, tournerait autour du soleil, que les hommes sur sa peau auraient intérêt à sauver la leur, comme ils pourront, s'ils continuent sur cette trajectoire de cinglés. Wait and see, mais surtout agir. Ah, post-scriptum, éviter les concentrations animales et de faire sortir mes virus du bois, vous devriez mieux vous emporter, sauf à aimer rester dans vos terriers. Fin de citation de la Terre. Alors non loin de la Terre, donc à 384 000 km, à quelques heures de TGV spatial, la Lune, elle, était inquiète. Et Pierrot faisait la gueule. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a peu, on nous annonçait comme bonne nouvelle, au milieu de notre pimpante actualité, la présence d'eau. L'eau de la Lune est une ressource potentielle pour la NASA, qui a créé le programme Artemis en 2019, destiné à envoyer des astronautes américains sur la Lune au cours de cette décennie. Mais pour y vivre, bah évidemment, comme tout le monde, il faut de l'eau. Et envoyer des milliers de litres d'eau dans l'espace, ça coûte une blinde. Alors les futurs explorateurs peuvent être assurés. Ils pourront peut-être utiliser l'eau lunaire pour se désaltérer, laver leur linge, faire la vaisselle et le plein de leur fusée. Le Sapiens était super content. La Lune, future station-service à H2O et relais balnéaire avant d'aller sur Mars, c'est un must. Et puis il y a aussi plein de terres rares et d'autres richesses. Donc Pierrot va se casser, demander son asile politique sur la Terre ou pas sûr. Là, il réfléchit, la galaxie est grande. Après avoir défoncé la Terre, l'humain est capable d'éclater notre satellite. Alors les enfants, vous chanterez « Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi de la thune, je vais défoncer ton dos ». Comme le sapiens s'est rarement rassasié, chez nous, en Alsace, à Dornbach et Ansisheim, 34 hectares de terres agricoles sont guettés par les tractopelles. Création possible de 1000 emplois plus ou moins précaires et en moyenne, 4 fois plus d'emplois de détruits. Ah oui, alors je vous ai pas dit, c'est une des nouvelles implantations Amazon sur notre territoire. Que dira le préfet, donc l'État, autorisera, autorisera pas? Bon, après tout, hein, il faut bien prévoir les prochains confinements. Et puis quand même, il nous faut quand même une bonne nouvelle, hein, une good news pour la soif. Et ben, elle vient des Hautes-Pyrénées, de l'écrivain Christian Laborde.
Bonjour Denis, c'est Christian Laborde. Voilà, écoute, avant de disparaître enfermé à double tour dans nos maisons, je voulais te communiquer une excellente nouvelle. Nous avons gagné contre la porcherie d'Ossin, le projet de porcherie industrielle, pour la bonne et simple raison que le producteur, l'initiateur, la FIPSO et Selecport ont renoncé au projet. Donc voilà, c'est terminé. Les cochons ne souffriront pas sur le plateau de Gers et la départementale 936 restera une belle route pour les cyclistes. Voilà, le combat est gagné. Ça arrive si peu souvent que je m'empressais d'en faire part. Voilà, je t'embrasse et à bientôt. Et puis je te remercie de nous avoir donné la parole dans ton émission sur France Inter pour dénoncer cette horreur qui donc ne viendra plus. C'est gagné. À bientôt. Ciao. Ciao. T'embrasse, Denis. Ciao.
Et une autre bonne nouvelle de la nature, eh bien ce sont les chouettes chevêches qui s'apprêtent à voler dans votre poste, votre ordinateur, vos enceintes en pays de Sarrebourg. Joli thème donc pour ce CO2 mon amour.
ça, et ma tête est en fleurs sur le pavé. Pendant la nuit, les fatigues s'effacent, les masques tombent pour célébrer le néant et la folie. Dans cette nuit qu'on appelle la vie, j'ai envie de courir. Que je me dépêche et si je sors, c'est pour tout effacer de ma mémoire. Je veux le temps, mais éviter les histoires et éviter les drames, s'il est déjà trop tard, la vie me crame. Mais dans les nuits, je trouve mon heure de gloire. Pendant la nuit, les paradis s'effacent, les masques tombent pour célébrer le néant et la folie. Dans cette nuit qu'on appelle la vie, j'ai envie de courir.
C'était la femme qui interprétait Paradigme. Oh, mais vous dépêchez, on a des chouettes chevêches qui nous attendent.
Alors Simon, là, du coup, j'ai le plan. Il faudrait qu'on regarde ensemble qu'est-ce qui t'arrange le mieux. Donc là, au niveau du nichoir à chouettes chevêches, on avait décidé que ce serait plus au nord.
Hein. Oui, et tu m'avais dit que c'était à l'opposé de la chouette effraie. Donc ça, a priori, ça on n'a pas le choix, de toute façon.
Par contre, il faut qu'on revoie ensemble pour les plaques à reptiles.
Oui.
Donc là, les reptiles qui mangent aussi beaucoup de rongeurs. On est encore sur une interrogation. Est-ce qu'on va le mettre plus à l'est ou plus à l'ouest
Moi, idéalement, j'aurais bien aimé qu'on en mette un de chaque côté pour...
C'est une bonne
partie et pas toutes du même côté.
Ouais, effectivement, parce que là, du coup, on a trois plaques amphibiens à reptiles. Ouais.
Sachant que là, je pourrais mettre une mare sur la zone là, moi aussi.
Ah oui, oui.
Je sais pas si c'est un intérêt.
Oui, ça a un intérêt parce que justement, si on met la plaque à reptiles là près de la mare, ça va forcément intéresser donc la couleuvre à collier qui va certainement venir fréquenter ta mare.
Et voilà les interactions. Nous sommes chez les frères Donadieu. Alors regardez mes yeux, je suis la chouette Athéna, qui colle à l'image de la déesse de la sagesse. Je suis donc la chouette chevêche. Suivez-moi en pays de Sarrebourg, en Moselle, aux portes de l'Alsace et des Vosges. Mes effectifs étaient au plus bas et le collectif Préservons la biodiversité, avec son président Jean-Martin Heck, ses troupes actives sont dans le fer. Et donc sont venus sur mon terrain. Comment faire revenir le vivant? Eh bien, tous ces bénévoles agissent, analysent, comprennent mon habitat. Et ce reportage est dédié à Chloé Fève, en sa mémoire, parce que c'était une jeune adhérente absolument formidable, une personne active sur le terrain. Présentation tout de suite de notre petit rapace.
Alors nous, on s'occupe plus précisément de la chouette chevêche ou chevêche d'Athéna. Alors une petite chouette vraiment assez magnifique, qui n'est pas plus grosse qu'un merle.
Voilà, oui.
Alors on en tombe très vite amoureux parce qu'en fait on l'appelle également chouette aux yeux d'or. Et donc du coup la première fois que je l'ai vue, je vous dirais que j'aurais presque trompé avec ma copine. Vu ses superbes yeux magnifiques qui vous regardent, et en plus elle reste quand même assez placide et elle se laisse manipuler. Donc nous, c'est ce qui nous anime depuis maintenant un bon bout de temps, depuis 2006. Alors bien avant, en 2004, on avait fait un recensement parce que justement, suite à l'installation d'éoliennes, on s'était dit, ça serait bien de faire un recensement de la chouette chevêche au pays de Sarrebourg. Et là, on s'est vite rendu compte qu'il restait que 5 couples de chouettes chevêches sur le pays de Sarrebourg.
L'idéal pour la chouette, qu'est-ce que c'est? Donc c'est des milieux qui sont ouverts, c'est des vieux arbres, qu'est-ce que c'est?
Alors effectivement, l'idéal pour la chouette chevêche, c'est les arbres fruitiers aux tiges. des vieux arbres fruitiers aux tiges, avec des milieux ouverts comme celui qu'on voit devant nous, hein, pâturés. Alors pourquoi du pâturage ? Parce que l'intérêt de travailler avec les agriculteurs, c'est aussi que le fait que l'herbe soit pâturée donne accès aux différents rongeurs que la chouette chevêche mange.
Donc, elle n'est pas du tout forestière. Bon, elle peut être peut-être au milieu d'une clairière parfois, mais enfin, elle n'est pas forestière, celle-là. Hein. C'est pas la hulotte, par exemple, c'est pas la tegmale.
Non, pas du tout. Effectivement, c'est une chouette qui est vraiment inféodée à l'humain et qui est à proximité de village. Donc, à l'origine, elle vit réellement dans les arbres creux. Donc, d'où l'intérêt de garder ces vieux arbres creux.
Parce qu'en général, les vieux, qu'est-ce que vous faites ?
Ah ben, en général, les arbres creux, c'est comme les vieux. Hein, on les met en EHPAD et puis on s'en préoccupe pas. Donc là, du coup, on arrive...
Vous allez nous présenter qui ?
Chez Simon Dieudonné, notre maraîcher biologique. Alors, pourquoi vous avoir invité ici ? Parce que ce maraîchage souffre aussi de problématiques liées à des rongeurs. Et donc, du coup, avec Simon, on va essayer de faire un diagnostic de son terrain et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut essayer d'amener en termes d'auxiliaires naturels. Donc quand je parle d'auxiliaires naturels, bah, c'est les chouettes qui vont manger des rongeurs. Ça pourrait être aussi des petits mustélidés comme l'hermine, etc. Mais aussi, on a parlé aussi d'éventuellement mettre en place des nichoirs à faucons cresserelles.
Alors Simon Dieudonné, merci de nous accueillir chez vous. Là, je suis face à vos six serres. Que je vois là.
Alors nous on fait tous les légumes classiques, alors uniquement des variétés anciennes. On fait pas d'hybride F1 comme ça se fait beaucoup dans le bio-industriel, c'est encore un seuil un peu au-dessus on va dire. Et donc sous les serres on a tout ce qui est tomates, aubergines, poivrons, concombres et puis à l'extérieur poireaux, pommes de terre, carottes, betteraves. On fait vraiment tous les légumes classiques.
Le constat que vous avez fait donc pour appeler Jean-Martin ?
Eh ben, je dis nous parce que je suis avec mon frère jumeau, on cherche à recréer un peu un milieu. On aime beaucoup les zones boisées, les haies, tout ça. Et on aimerait mêler la production agricole et la production de fruits en même temps et recréer un peu un petit oasis de biodiversité. Comme on en a les moyens, en tout, on a 17 hectares. Donc le maraîchage, c'est sur 2 hectares. Et puis on a encore quelques prairies en pâture autour de nous. Et donc on aimerait remettre de l'arbre et remettre un maximum de vie autour de notre projet de maraîchage.
Et pas avoir trop de prédateurs non plus.
Et oui, et le problème c'est que forcément, alors qu'on est en non-travail du sol, donc le sol est en permanence protégé par de la paille ou du compost ou des choses comme ça. Et le problème en non-travail du sol, c'est notamment la prolifération des rongeurs. On est en agriculture biologique, donc on n'a pas de moyens de lutte, à part la biodiversité, en fait, on n'a pas grand-chose à essayer. Donc c'est comme ça qu'on s'est rapproché de Jean-Martin. On avait déjà bricolé des petits perchoirs, et puis on l'a rencontré un peu par hasard, et on s'est dit qu'on pourrait installer des nichoirs sur la parcelle. D'après mes recherches, c'est ce qui est le plus efficace pour réguler tout ça, quoi.
Et c'est là qu'il va vous aider. Ah, là, il y a du monde. Camille, bonjour.
Bah bonjour.
Alors Camille, qu'est-ce que vous faites de beau ici ?
Moi je suis au collectif du coup, oui. Puis du coup on va poser un nichoir aujourd'hui, donc je suis venue en renfort.
Vous êtes très vieille, vous avez quel âge ?
19 ans.
C'est bien ce qui me semblait, et que faites-vous de beau ? Donc, vous êtes quand même déjà un peu engagée.
Oui, moi je fais un BTS gestion protection de la nature, et je suis en apprentissage au domaine de l'Indre du coup.
Donc est à côté, hein, c'est le domaine des étangs de l'Indre. Et alors vous arrivez à tourner la tête à 180 degrés d'un côté et de l'autre comme elle ?
Non, c'est pas possible.
Oui, effectivement, donc elle peut tourner sa tête jusqu'à 270 degrés, hein, comme toutes les chouettes. Alors ce qui est intéressant aussi sur cette chouette chevêche, c'est que donc elle a les yeux jaunes devant, mais derrière elle a un mimétisme parfait d'œil en fait. Et donc du coup, c'est pour éviter qu'elle se fasse prédater notamment par les autres grands rapaces. Donc quand un rapace se présente derrière elle, il ne va pas la prédater puisqu'en fait, il croit qu'elle est en train de le regarder.
Ah oui, donc c'est une espèce de leurre. Quand même.
Oui, là, c'est ça, exactement, un leurre. Ouais.
Parce que donc, il y a le faucon pèlerin, peut lui tomber dessus. Qu'est-ce qu'on a ?
Ah ouais, on a surtout l'épervier, on a la buse, les milans, maintenant milans noirs aussi, qui peuvent être ces prédateurs. Et maintenant, en termes d'animal nocturne, c'est plutôt, alors pour les mustélidés, c'est la fluine, mais qui a un fort impact sur les petits. Et sinon, elle peut être aussi prédatée par la chouette effraie et la chouette hulotte.
plus on a, Jean-Martin, en fait, des lotissements à droite à gauche, donc qui en général sont sur des terres agricoles, mais oui, tu vas parler aussi après. Moins il y a d'habitat pour les chouettes et pour d'autres animaux.
Alors effectivement, on a vu que l'extension de l'habitat dans les villages était problématique, puisque souvent les vergers qui font la ceinture des anciens villages lorrains n'existent plus, et à cet emplacement ont pris place des lotissements avec les belles rues qui sont nommées rue des vergers, rue des fruitiers, rue des poiriers, rue des cerisiers, etc.
Bien sûr, donc la première chose que fait le promoteur, c'est de les foutre en l'air, et après effectivement on rebaptise quand même, une espèce de rédemption là.
Ah oui, effectivement, alors du coup on rebaptise ce petit lotissement, et puis puisque chacun veut son petit carré de jardin et puis sa belle haie de tuya, c'est magnifique, et on fait un superbe biotope comme ça, puisque il faut savoir quand même une chose, c'est que la haie de tuya est interdit en Grande-Bretagne, mais dans une haie de tuya, il est très très rare qu'il y ait des oiseaux qui y nichent.
Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc, le diagnostic que vous avez fait, c'était quoi?
Du coup, moi, je suis déjà venu une demi-journée auparavant avec Simon, et donc, on a fait le tour du terrain.
Ouais.
Alors, Simon a déjà installé, vous voyez, plusieurs poteaux sur lesquels il y a des bâtons qui ont été fixés. Alors, ça, c'est pas par hasard, hein, c'est pour que les buses puissent s'y poser, ou d'autres chouettes la nuit. Comme ça, elles peuvent rester tranquilles et avoir la capacité d'entendre les rongeurs qui sont auprès de ces cultures et foncer sur le rongeur.
Parce que l'ouïe, évidemment, est extrêmement importante. Hein. C'est le premier.
Alors oui, effectivement. Alors les oiseaux sont dotés d'une ouïe exceptionnelle.
Et la vue.
Et d'une vue exceptionnelle. Hein. Si on avait la vue, enfin les yeux tels que les chouettes en niveau de proportion, on aurait deux oranges au niveau de la tête.
Bien
en termes de proportion.
Ça nous changerait, quoi.
On verrait peut-être un peu mieux.
Ouais. Ouais,
on protégerait peut-être mieux la nature.
Sabrina, alors vous, ce que vous faites, racontez-nous.
Alors moi, je suis ingénieure dans un laboratoire de recherche et je suis la coprésidente avec Jean-Martin de l'association.
Et alors aujourd'hui, si on fait un petit inventaire, donc vous avez réussi les uns les autres à la faire remonter en effectif?
Alors aujourd'hui, cette année, on est à 22 couples et dans tous les nichoirs posés, on est à peu près 80 juvéniles.
Ouais. Oui, ce qui veut dire que si on lui donne des conditions qui sont bonnes, il y a de la résilience.
Effectivement, alors le problématique, est, comme vous l'avez compris, hein, il est lié au manque d'arbres creux et aussi à la prédation de la fuine, mais particulièrement au manque d'arbres creux. Donc nous, en fait, on a créé ce palliatif en créant des nichoirs. Donc ces nichoirs, en fait, on les a assemblés grâce à des planches qu'on achète en local, donc chez un agriculteur scieur qui nous découpe des planches de Douglas. Et donc du coup, l'intérêt de cette démarche, c'est aussi que ces Douglas viennent en fait de la forêt du Donon, qui est à une trentaine de kilomètres d'ici.
Le champ du feu et la forêt du Donon, quoi.
C'est ça, voilà.
Donc maintenant, quelles sont les attentes, vous, Simon?
Les attentes, si les nichoirs pouvaient être peuplés et si on pouvait voir une efficacité sur la population de rongeurs, ça serait idéal. Après, nous, notre objectif, c'est avant tout d'offrir de l'habitat, et puis la nature décidera du reste, quoi. Nous, on essaye d'être le plus écologique possible dans la démarche, d'avoir un maximum de haies. Là, on plante aussi des fruitiers au milieu des légumes pour laisser des zones un peu enherbées, tout ça. Après, c'est la nature qui décide.
C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Vous vous avez posé un nichoir? Comment ça se passe?
Alors là, oui, on va poser un nichoir à chouette chevêche.
C'est le nichoir type caisse à vin avec SAP. Donc, SAP, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un système anti-prédation. Donc, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un tube qui est biseauté et qui vient se fixer sur le nichoir. Tout ça pour éviter que, en fait, la fuine ne puisse rentrer dans le nichoir et prélever les petits au moment de la nidification.
Enfin, elle est bonne grimpeuse, mais pas complètement alpiliste non plus.
C'est ça.
Alors, toi, là, ça, donc, tu chasses pas la fuine? Alors, je traduis. A priori, non. J'aimerais bien, mais il faut m'apprendre. Et tu m'embêtes pas avec tes questions, mais ce serait bien que tu les poses aux autres. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, après les frères Donadieu, les jeunes et Jean-Martin Heck, et donc après Grégory, choisi par Thierry Dupin, eh bien ce sera un changement de lieu. Nous irons dans le parc naturel régional de Lorraine, chez un éleveur laitier bio. Everything you touch is gold. That is why my soul is shining. Feel just like I'm 10 years old. Everything is new and surprising. You don't have to dig too deep to find out your effect on me. 'Cause everybody that I know can see, and they're asking me, what is going on in your life? Oh, everything you touch is gold. That is why my soul is shining. Our story is not yet told. Then you can stop mining. I don't have to dig to see my treasure standing right in front of me. Everyone that I know is asking me, what is going on? Ouais, Grégory Porter, Everything You Touch Is Gold. Ben, il a raison avec le cours de l'or. Hein.
Oh là, le cheval! Ça, là! Mais c'est un merle, sous le merle.
C'est où de mon amour?
Il n'y a pas de cheval sous le merle, mais ici, ah ben, je vois plus le merle.
Avec Denis Chessou.
Alors retrouvons notre chevêche d'Athéna, intimement lié, on l'a compris, à ces paysages. Hein, donc il faut à tout prix maintenir bocage avec des haies d'arbres, têtards et vergers, milieu ouvert. Donc, alors elle est très active le jour, mais elle fait partie des nocturnes les mieux connues des observateurs. Et pour sauver une espèce, vous l'avez compris, il faut d'abord sauver le milieu où elle vit, et là précisément en Moselle. Jean-Martin Heck à la main, une petite pelote de réjection comme on dit.
Oui, voilà, donc une pelote qu'on a trouvée sur le nichoir. Donc là on a changé d'endroit, donc on est à Fribourg, ouais. Pays des étangs, pays de Sarrebourg, et en plein parc naturel régional de Lorraine.
D'accord, donc on a fait une trentaine de kilomètres à peu près.
C'est ça, ouais, vers l'ouest.
Et là vous avez donc installé ce fameux nichoir, donc vous là, avez mis la main dedans, tranquillement.
C'est ça, alors là on est dans un verger haute tige, ancien fruitier pâturé, et on a posé un nichoir sur un vieux pommier, hein, ouais, qui a même une branche cassée. Et on sait qu'il y a une chouette chevêche qui a niché, puisqu'on y est passé il y a 3 semaines et il y avait des petits dans ce nichoir. Alors pourquoi on y passe? Parce que justement on nettoie le nichoir aussi pour qu'elle puisse s'émanciper d'autant plus facilement.
Alors on va se tourner vers Michael Rennes, parce que qui nous accueille donc chez lui dans cette ferme du château. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Élevage, hein, ici.
Élevage, oui. Production lait bio.
Alors qu'est-ce que vous faites pour attirer ces chouettes?
Bah, pas grand-chose, on a déjà tout sur place. Il y a les tas de grains, les mulots, les souris, tout le monde est là. Donc oui. C'est parfait pour eux. Quoi.
Mais il n'y a pas que ça, parce que là je vois quand même des jeunes plants. Là.
Oui, on a fait repiquer des arbres. Pour un peu avoir un peu plus de diversité un peu dans le verger, et puis ben, pour nous aussi en pouvoir en profiter, et puis les animaux, les oiseaux.
Alors Jean-Martin, donc le travail que vous effectuez avec un certain nombre justement d'éleveurs, d'agriculteurs, ben, ça commence donc à être payant, parce que c'est vous qui les avez un peu sensibilisés, comment ça s'est passé?
Oui, alors déjà quand on se présente auprès des agriculteurs, ils connaissent pas forcément la chouette chevêche, donc du coup on a un petit prospectus. Et c'est vrai qu'on leur dit que c'est une espèce intéressante, notamment parce qu'elle elle mange beaucoup de rongeurs. Et donc du coup, effectivement, là, ça les intéresse tout de suite par rapport, c'est aussi des ravageurs de culture. Souvent, on se rend compte effectivement qu'il y a énormément de rongeurs qui sont mangés par cette chouette, puisque lorsqu'on ouvre le nichoir à la mi-juin pour nettoyer
nettoyer ce nichoir, il n'est pas rare de voir au moins 5 ou 6 rongeurs morts dans le nichoir.
Alors ce qu'on appelle donc ces hautes tiges, ce sont quoi ? Ce sont des arbres fruitiers ?
Alors oui, c'est des arbres fruitiers anciens qui ont été implantés. Là, les arbres qui sont autour de nous, ils ont entre 70 et peut-être même 100 ans. Donc arbre haute tige, ça veut dire quoi ? C'est en fait le porte-greffe de cet arbre est à au moins 1,80 m. Et donc c'est des arbres qui sont voués à être très grands, mais aussi dont la branche, des branches risquent de casser. Donc quand la branche elle casse, ça va créer un petit bourrelet. Dans ce bourrelet va s'immiscer un peu de l'eau et ensuite l'eau va faire son impact, creuser au fur et à mesure l'arbre. Donc du coup, dans ce creux de l'arbre va pouvoir s'installer une petite biodiversité et notamment la chouette chevêche.
D'accord. Et là, vous replantez de nouveaux arbres.
Alors effectivement, nous, on a débuté donc en 2004, puis en 2006, surtout pour l'implantation des nichoirs. Mais on s'est dit, voilà, c'est très bien de soutenir la chouette chevêche par les nichoirs. Mais derrière, si on soutient pas les agriculteurs avec la plantation de nouveaux arbres fruitiers pour préparer l'avenir, notre action ne va pas forcément servir à quelque chose.
Michael, au contraire, il n'est pas du tout réfractaire. Il se dit, c'est très bien d'avoir des arbres supplémentaires et ça nourrit cette biodiversité.
Effectivement, alors nous aussi, on est vraiment très surpris lorsqu'on traverse les campagnes et quand on voit notamment des animaux qui sont en plein pâturage et qui n'ont absolument aucun ombrage. En été, comme il y a de plus en plus d'été caniculaire,
on sera bien content d'avoir de l'ombre.
Tous les animaux se mettent à l'ombrage. Nous, les humains, on est les seules personnes à faire des migrations vers le sud de la France pour se faire griller au soleil sur les plages.
C'est très bien vu. Alors, on plante de nouveaux arbres et puis aussi on plante des graines avec nos jeunes.
Donc du coup, on fait de la sensibilisation au niveau des écoles et ensuite, on va planter les arbres avec les enfants ou avec des centres d'aide par le travail. Et ensuite, on implante le nichoir avec ses enfants.
Vous nous présentez ?
Luna.
Bonjour Luna.
Bonjour.
Quel âge as-tu, Luna ?
12 ans.
Quel est ton prénom ?
Sacha.
Racontez-nous ce que vous faites alors.
On a planté des arbres derrière chez nous et à l'école aussi. En fait, c'était assez amusant. Là, chez nous, ils sont bien poussés. Il y a quelques petits fruits dessus.
Vous avez planté combien d'arbres tous les deux ?
Chez moi, on a planté une dizaine et 5 ou 6, ouais, je pense 5 ou 6 à l'école.
Et ça nous permet, Jean-Martin Heck, de rappeler comment on peut aussi aider ces oiseaux. Parce que beaucoup de personnes se disent, si j'y touche, elle va être imprégnée et sa mère va laisser tomber. Pas du tout. C'est-à-dire que lorsque l'on voit des petits, on a intérêt à les remettre quoi ? 1 mètre, 1,50 m ?
C'est ça. On reprend le petit qui s'est pas volé et on le reperche sur une branche. Et donc du coup, les parents s'en occuperont.
Il y a beaucoup de casse ou pas chez ces oiseaux-là ?
C'est vrai que c'est des espèces assez fragiles. Donc là, on est parti de 5 couples, on en a 22, mais plusieurs années, X années après. Donc 5 couples en 2006.
Ils font quoi ? 1, 2 œufs, 3 œufs ?
3 à 4 œufs. Au bout de 2 ans, la moitié des jeunes ne survivront pas. C'est aussi du fait du mode de déplacement des humains, donc choc avec les voitures. Après, elles tombent dans les cheminées. Il y a aussi des abreuvoirs qui ne sont pas équipés, puisque en fait, la chouette va avoir tendance à vouloir boire de l'eau et son plumage va se remplir d'eau et donc elle va se noyer. On a eu le cas aussi des méthodes qui sont encore ancestrales et très utilisées. On utilise de la bromadiolone.
Ah oui, donc c'est pour les campagnols.
Voilà, c'est pour les campagnols. Mais ça, c'est un produit qui a un retardement. C'est-à-dire que le campagnol l'ingère et ce n'est qu'au bout de 3 ou 4 jours que le campagnol meurt. Donc la chouette chevêche ne mange absolument pas de rongeur mort, mais elle va ingérer un rongeur qui est plus faiblard. Mais le rongeur aura déjà ingéré cette bromadiolone et donc du coup, elle, étant au sommet de la chaîne alimentaire, s'infecte.
Alors que si on ne flingue pas tous les renards qui traînent, c'est eux qui vont faire le boulot sur le campagnol, ce qui vous évite de la bromadiolone.
Exactement, voilà. Les renards, au même titre que les chevêches, font énormément rendent un énorme service également à la biodiversité et débarrassent vraiment beaucoup de rongeurs et aident notamment les agriculteurs. Il faut en être conscient.
« inquiétez pas, on n'est pas en train de découper une chevêche, pas du tout, non. On est en train d'ouvrir la boîte.
Alors, et voilà, il y a encore les petits.
1, 2, 3.
Ouais, 3 petits qui sont encore là.
Oh, c'est top.
On distingue bien donc ses yeux d'or. Hein.
Ah oui.
Et on voit bien que c'est bien un petit rapace puisqu'il a des serres vraiment très tranchants.
Hein,
et c'est grâce à ça qu'il arrive à se saisir des rongeurs en fait.
Alors tu flippes pas, tu t'inquiètes pas, c'est de la radio, c'est voilà. Tout, ça fait pas mal.
Donc là on les met dans le petit panier en osier, on va le fermer et pendant ce temps-là on va nettoyer. Donc
alors là c'est bonne prise pour vous parce que vous allez pouvoir nettoyer, ils vont pouvoir rester peut-être davantage.
C'est ça. L'idée donc c'est d'enlever en fait tout ce reste de fientes, de pelotes de réjection.
On va dire tout ce merdier.
Ça permet aussi à remettre des copeaux et ensuite à les remettre dans leur nichon.
Jean-Martin est en train de racler, de bien nettoyer le nichoir.
Donc on voit un peu des restes. Alors il y a des os, hein, parce que c'est les restes des rongeurs, et aussi on voit des coléoptères. D'accord. Donc on voit bien les élytres. Donc là j'ai nettoyé et maintenant je vais remettre des copeaux.
Des petits copeaux.
Alors maintenant, vu qu'elles sont déjà bien développées, on va pouvoir refermer le nichoir et les faire rentrer par le tube. Allez, on remet donc du coup par le tube et elles rentrent naturellement dans le nichoir. Ah tiens, Luna, tu veux me la passer ?
Allez Luna.
Une première expérience. Alors tu fais attention, tu ouvres précautionneusement là. Tu peux la prendre comme ça. Voilà, écarte bien la tête, voilà, très bien. Parfait. Du coup, tu peux essayer de la remettre dans le nichoir. C'est bon ?
Ça y est.
Parfait.
Et le fait là qu'elles aient gagné en fait 10 jours de plus, hein,
oui.
C'est aussi des possibilités de survie beaucoup plus importantes.
Oui, effectivement, vu qu'elles vont pouvoir avoir un développement plus facile de leur rémige, elles vont plus facilement s'envoler.
Oh, mais il y a la troisième, elle est partie, elle s'est envolée.
Ah oui, c'est un bon exemple comme quoi finalement voilà. Le nettoyage qu'on a fait il y a 15 jours a été propice puisque effectivement on en voit une qui vient de s'envoler.
Alors, ça veut dire que c'est peut-être carrément son premier vol là.
C'est certainement son premier vol.
Ouais.
Mais bon après il n'y a pas d'inquiétude, je pense qu'elle va revenir et puis les parents sont autour, hein, ils vont s'en occuper. D'ailleurs les petits de chouette chevêche restent au moins jusqu'en septembre. Pour gagner en maturité. Ils vont apprendre avec les parents à chasser également. Et puis après, à partir de septembre, le couple, chacun fait bande à part. Les petits sont un peu expulsés, on va dire, hein, du territoire. Normalement, ça parcourt 10-15 km, donc ça peut se retrouver dans les 10-15 km autour. Mais là, on a une chouette chevêche qui a parcouru plus de 45 km. Et on l'a su parce qu'elle avait été baguée en Allemagne et on l'a retrouvée dans un de nos nichoirs.
Peut-être que celle du milieu, on pourrait la mettre plutôt de ce côté-là.
Donc on pourrait faire un test éventuellement avec deux plaques ici, une plaque de l'autre côté. Ouais. Et du coup, je mettrai également un nichoir à faucon cresserelle dans la même haie.
Ouais.
Et ensuite... on a vu que tu avais mis des poteaux, on va mettre plus au sud, un nichoir également à faucon cresserelle, parce que tu m'as dit que le sud, il y a moins de fréquentation.
Oui, et puis j'aimerais quand même qu'il y ait si on peut en installer directement sur la parcelle pour réguler au niveau du plein champ, tu vois, parce que c'est quand même beaucoup plus de dégâts, même je dirais, en plein champ que sous serre. Ouais. Donc si on peut en mettre un sur la partie en dessous des serres, et puis éventuellement un nid à faucon sur la partie au-dessus des serres.
Et après, il faudra qu'on voit ensemble pour cette histoire de murée. Là, tu sais qu'on avait dit que les pierres sèches, ça peut aussi attirer notamment les mustélidés.
Oui.
Et donc, du coup, les mustélidés sont aussi prédatrices de, Et donc, l'intérêt de ton terrain, c'est que justement, le mur de pierres sèches peut vraiment se mettre au niveau sud, là.
Moi, j'avais fait... Entre les serres, j'ai fait des petits tas de bois, des choses comme ça que j'ai laissées en espérant faire aussi des ponts pour qu'ils puissent passer d'un abri à l'autre. Et puis effectivement, si on peut mettre un muret encore... On avait vu une belette l'année dernière, on ne sait pas trop si elle est encore là. Donc si on peut lui refaire des abris, c'est parfait pour nous.
C'est-à-dire que la belette est plus copine que la fouine pour vous.
D'après mes recherches, oui, c'est un des grands prédateurs des rongeurs. Donc on essaie d'attirer tout le monde. Après, ça s'arrange entre eux.
C'est formidable quand même de voir ces chouettes qui sont masquées naturellement. Vous avez des photos sur le site de CO2 Mon Amour. Et puis ce qui est formidable, c'est de voir donc l'énergie qui se dégage de ce collectif préservant la biodiversité. Alors véritablement, il faut les aider, parce que je vais vous dire une chose, ils se financent en fait en vendant du jus de pomme. Ils récupèrent les pommes des vergers qu'on leur donne et ils se financent comme ça. Et aussi grâce aux dons. Donc là aussi, les élus, si vous nous écoutez, vous pouvez les aider. Merci à Jean-Martin Heck, à toute son équipe, avec une pensée particulière pour Chloé Fèvre. Oh bah dites donc, ça sent la fin. Merci à Stéphane Foulon et Olivier Leroux qui étaient à la technique aujourd'hui, à Camille Blanès et à Fred Milano qui a colorisé et réalisé cette émission. Alors comme vous savez tout sur La Chouette Chevêche, vous êtes au point, et bien la semaine prochaine aussi, un autre grand bol d'air, ce sera celui des flamants roses et de la politique des flamants roses. Vous verrez, c'est très intéressant comme animal. Les podcasts, alors abonnez-vous au podcast de CO2 Mon Amour, abonnez-vous au podcast de L'Atulu Mon Petit Loup pour faire lire vos gamins, avec une excellente sélection, en tout cas je l'espère. Le Twitter, c'est Denis Chessou, tout attaché. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter un excellent dimanche.